La traversée. La traversée, une émission de Lucien Bertolina et Gilbert Assina sur les relations entre la France et l'Algérie depuis 1954. Avec ce soir, Slimane Azoug. Slimane Azoug, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes candidat à la députation lors des prochaines, pour les prochaines élections législatives. Mais j'aimerais d'abord que vous nous parliez de vous-même. Nous sommes à Marseille, vous êtes de l'Estac. Et quel a été un petit peu votre parcours?
Bien. Alors, le parcours, d'abord, je me réjouis de que l'on parle de ma ville natale qui est Marseille, et plus particulièrement de l'Estac. En effet, j'y suis né en 1957. Je succède à mon grand-père qui est venu aux Tuileries. On l'appelait le Négus parce qu'il avait les cheveux poivrés et il venait de la Kabylie profonde. Et comme il était un petit peu le chef de tribu quand les Kabyles venaient de la montagne dans les années 1900, ils passaient tous par les Tuileries. Et les Italiens qui géraient les Tuileries avaient une colonie en Éthiopie. Et ils comparaient aussitôt mon grand-père à un chef de tribu similaire au Négus de l'Éthiopie. Et ils l'ont surnommé le Négus. Ça s'est succédé pendant 70 ans. Mon père a hérité de ce même surnom. Et moi, je suis né en 1957 à l'Estac parce que toute ma famille a vécu, je vous disais, depuis 1928, dans le giron des Tuileries, et plus particulièrement à Saint-André-à-la-Lorette. Alors, après, j'ai fait comme beaucoup, je suis allé à l'école et j'ai obtenu mon CAP d'aide comptable. À l'âge de 17 ans, j'ai souhaité rentrer et devenir un expert comptable à terme. Le sort a dévié par rapport au fait que mon père avait une boucherie qui se passait très mal et il m'a mis un ultimatum. Il m'a dit: ou tu prends la boucherie ou je la ferme, et d'où l'honneur de la communauté kabyle qui me diront que j'ai échoué, que j'ai fait faillite. À l'époque, c'était un crime de faire faillite. Et j'ai répondu à l'appel de mon père à la seule condition qu'il ne fallait plus faire de crédit à ses compatriotes. Il m'a écouté et on a réussi le pari ensemble. On a acheté un autre magasin, on a acheté un immeuble, un deuxième immeuble, et enfin ainsi de suite. Nous nous sommes bien développés dans ce milieu de la viande jusqu'aux années 78. En 79, commençait à émerger une communauté musulmane importante avec des boucheries halal. J'ai été le premier à devenir chevillard grossiste en viande halal aux abattoirs de Saint-Louis, qui sont à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau de la ville Angèle, dont vous vous trouvez aujourd'hui, et qui, pour votre info, a abrité, avant mon passage, Fernandel a vécu une partie de sa vie dans cette merveilleuse villa où vous vous trouvez. Mon père n'avait que de religion que le travail, rien que le travail, les Tuileries la nuit et la boucherie le matin, parce que comme il n'y avait pas d'activité, il n'y avait personne qui fournissait la viande halal, mon grand-père avait fait ça, mon père l'a succédé aux Tuileries, et si vous voulez, il cumulait deux fonctions. Moi, quand j'ai repris la boucherie, c'était dans les années 76-77, je suis devenu grossiste en 78, je suis devenu grossiste, 2 ans après avoir été boucher. En 83, le marché était trop étroit, je me suis lancé à l'exportation. Alors, il fallait que je parle en arabe, comme moi je suis d'origine kabyle. J'ai mis au point avec le père Gabriel Desvilles, qui est d'ailleurs toujours vivant, une méthode de langue pour apprendre l'arabe qui s'appelle Maraba et qu'on avait vendu d'ailleurs dans le monde à l'époque. En même temps que j'apprenais l'arabe, nous mettions au point une méthode de langue arabe. Et alors, dans les années 83, j'ai commencé à fréquenter le Moyen-Orient et j'ai créé des accords sanitaires entre la France et l'Arabie Saoudite. C'est le premier où j'ai commencé à livrer des bateaux de bétail parce que à l'époque, les Saoudiens étaient très frieux de la race charolaise. Et je chargeais des bateaux ici de 800 têtes. Ils mettaient 4 jours, des bateaux aménagés, et nous livrions l'Arabie Saoudite. Je ne connaissais pas l'Algérie. Et ce marché est revenu vers moi dans les années 87. Et je suis parti en Algérie pour prospecter ce marché parce que je ne le connaissais pas. Et là, en 87, il n'y avait pas d'argent. Et j'ai mis au point une vieille méthode commerciale. J'ai fait du troc avec les autorités publiques algériennes. J'ai fourni des bateaux de viande et des bateaux de bétail. En échange, j'ai racheté des dérivés de pétrole. J'ai racheté des dizaines de... des milliers de tonnes de dattes, de l'ammoniac, de l'ammonitrate, une multitude de produits que l'Algérie détenait en matière première en échange de bétail vivant qui était destiné à refaire de la reproduction là-bas. Étant donné que la France et l'Algérie étaient bien imbriguées au niveau du cheptel animal, je n'ai pas eu trop de mal à revendre la génétique montbéliarde, la génétique blanche et noire de l'Est, qui était historiquement, il y avait des rapports très importants. Ça s'est rompu après les événements de 62, mais moi j'ai pu recréer cette dynamique commerciale qui a duré de 87 jusqu'à 96, date de la vache folle. Entre-temps, dans le milieu mutualiste, j'ai animé et créé avec un ami une banque crédit mutuel, une caisse, où il y a toujours d'ailleurs un représentant de la communauté juive, un représentant de la communauté arménienne, un représentant de la communauté musulmane que je suis, un représentant d'un français tout court de souche, un représentant corse, et nous avons créé cette caisse qui, 23 ans après, marche merveilleusement bien. Ça, c'est le côté mutualiste. Il y a le côté associatif que j'ai aussi entretenu parce que j'ai rêvé, moi, en tant que jeune beurre des banlieues, que ce merveilleux pays pouvait, avec ses formations politiques, mettre à la tête de l'État une fraction qui représente les minorités visibles d'aujourd'hui. Malheureusement, les partis politiques n'ont pas pris au sérieux la réalité de cette société. Et j'en viens à la situation qui a fait que j'ai pris un engagement politique. C'est qu'il y a 2 ans, il y a eu le feu dans les banlieues et il y avait 2 attitudes à avoir. Celle la plus confortable, c'était de regarder et d'accuser les politiques du passé par rapport à ce qu'ils ont pu faire ou pas bien faire ou pas assez fait pour que ça puisse pas arriver. Et ça, je dirais, c'était assez facile de pouvoir avoir ce comportement. Et il y avait un autre, mais ça c'était le père de famille, le bon français de souche que je suis, qui s'est dit, aujourd'hui ces jeunes de banlieue sont ce que nous étions nous il y a 30 ans, mais à la différence c'est que nous on a réussi dans nos ascensions sociales, on ne doit pas être des traîtres, on doit rentrer dans le débat politique. Voilà pourquoi, avec une équipe d'amis, nous avons choisi de rentrer dans le débat politique et aujourd'hui nous sommes présents parce qu'on ne veut plus jamais que ça se fasse sans nous. La particularité de Slimane Azoug par rapport aux autres candidats, c'est que moi, personne peut me traiter que je suis raciste si je dénonce certaines injustices dans les banlieues. Personne peut me reprocher dans les pays arabes quand je voyage que la France n'est pas un grand pays. Personne ne peut me le dire, et même s'ils agitent ce chiffon rouge, ils ne le feraient surtout pas avec moi. Je peux vous dire, les yeux dans les yeux, que la France a la chance d'avoir des ambassadeurs comme Azoug, et s'il n'en existait pas dans l'état actuel de notre pays, le devoir du législateur, ce serait de permettre à l'émergence d'hommes politiques pour qu'il y ait la représentativité nationale de telle sorte à ce que l'équilibre revienne pour qu'on puisse au moins régler les problèmes du quotidien.
Vous n'êtes pas seul comme entrepreneur, donc vous devez avoir autour de vous des tas de gens qui partagent vos idées, en tous les cas votre colère. Ce que je voudrais quand même comprendre, c'est que votre engagement politique est de date récente, en fin de compte.
Il est récent, mais j'ai toujours en fait travaillé derrière le rideau. J'ai toujours milité à la création de France Plus, qui était un mouvement. J'ai toujours milité avec les gens d'SOS Racisme. J'ai toujours été aux côtés. Aujourd'hui, nous avons des ministres comme Azouz Begag, comme des préfets comme Abdelaïssou, bien d'autres, que nous avons toujours plus ou moins accompagnés dans la trajectoire politique parce que nous n'étions pas au devant de la scène, parce que c'était eux qui avaient la destination politique. Malheureusement, les grandes formations n'ont pas donné naissance ou n'ont pas permis à certains d'exercer leur talent. Et c'est l'urgence qui a fait que nous soyons tombés dans le débat politique. C'est l'urgence du pays, l'état du pays qui, nous amène à nous occuper de la chose publique. C'est une nécessité, c'est un besoin. Parce que ce pays nous a beaucoup donné. Aujourd'hui, il serait très malsain, immoral, de ne pas devoir être à son chevet pour justement permettre à ces enfants qui vivent ce que nous avons vécu il y a 30 ans. Mais à la différence, c'est que ces enfants ont une fierté en nous voyant. Je vous donnerai un petit exemple très précis. J'ai fait l'école récemment du lycée Nord et il y avait 100 élèves. Quand on est rentré dans la classe, ils chahutaient, ils sont montés même sur les tables carrément, et les profs ne pouvaient pas les gérer. On a pu les discipliner à un moment, ils sont restés là, mais très mal à l'aise, ils étaient pressés de partir, et on leur a fait la projection d'un film que nous avons fait avec Morad Aitabouche de 36 minutes. Sachez, monsieur, que 36 minutes après, ce n'était plus les mêmes. Sachez que quelques minutes après, ils m'ont tous regardé et ils m'ont demandé, « Monsieur Azoug, vous ne pourriez pas être notre père ?» En fait, ce pays, ce n'est pas ce qu'on pensait. Si des gens comme vous ont réussi, en partant du constat que vous nous avez montré au début du film, mais ça veut dire que nous aussi, on peut avoir la chance. Si vous voulez, nous avons laissé faire les choses. Aujourd'hui, nous devons les reprendre en main. C'est cette raison-là, c'est dans ce débat-là que je me situe et que se situent beaucoup d'amis. Vous le disiez si bien tout à l'heure. En effet, dans le mouvement Club 92 que j'ai initié à la demande du président Boudiaf, qui me l'avait demandé du temps de son vivant, j'ai aujourd'hui autour de moi 300 sympathisants, chefs d'entreprise, qui sont comme moi et qui ont un lien particulier avec leur pays d'origine, l'Algérie. Et le rêve de Boudiaf, il me l'avait dit les yeux dans les yeux. Il m'a dit que ce qui t'est assigné sur le futur, Slimane, c'est de pouvoir réunir les fils de pieds noirs, les fils du harki et les fils d'immigrés. Ça ne tient qu'à toi, c'est ton travail et tu devras le faire dans l'avenir. C'est ces enfants-là qui seront l'avenir du pays.
Mais ça, c'est de dire qu'il faut prendre ses responsabilités à un certain moment et que les événements vous y ont conduit.
Exactement, exactement.
Vos choix politiques, à ce moment-là, vous vous tournez vers les partis. Vous avez déjà une expérience associative, donc c'est très important. Vous savez qui est qui à l'ESTAC, par exemple, et pas seulement à l'ESTAC, puisque votre entreprise est basée aussi à Grigny, dans la région parisienne. La question que je veux savoir, quel est le sentiment que vous avez sur les partis politiques à ce moment-là?
Alors moi, je peux vous dire que je les connais assez bien. Parce que dans chaque grande formation, j'ai beaucoup d'amis qui, aux commissions de désignation, certains amis députés. Dans chaque formation politique, j'ai des connaissances assez significatives depuis 25 ans. Moi, quand nous avons diffusé ce film, j'ai été approché par le Parti Socialiste et j'ai refusé l'offre du Parti Socialiste. Alors que nous sommes, nous, majoritairement de sensibilité de gauche. Je veux dire que même mieux, nous sommes leurs otages d'ailleurs, parce qu'ils considèrent que nos voix leur sont acquises. Ce n'est pas le cas de nos enfants. Nos enfants n'ont pas du tout cette considération. Ils gèrent assez habilement leur voix, alors que nous, antérieurement, on était forcément d'obédience socialiste. Voilà, c'est peut-être le milieu ouvrier, c'est peut-être ça qui est resté ancré. Mais nos enfants sont plus exigeants, ils ont plus de maturité politique. Alors j'ai été approché aussi par mon ami aujourd'hui, Jean-Marie Cavada, qui m'a proposé de rencontrer François Bayrou. Et là, j'ai rencontré François Bayrou. Son discours, l'engagement, et croyez bien que ce n'est pas opportuniste, c'était quand il avait 5%, on ne peut pas dire que je l'ai fait exprès. Son engagement, la réponse aux attentes que j'avais, ont fait que j'ai choisi ce bonhomme, les yeux dans les yeux, et je lui ai dit, moi je suis un homme de défi, j'ai accompagné des présidents de la République, je peux accompagner un futur président de la République ou un futur leader politique, et il était prédestiné. Et François Bayrou a accepté le deal, que je sois dans la circonscription, dans la quatrième, où je suis né. Voilà, si vous voulez, c'est assez à la fois instinctif, mais c'est surtout professionnel. J'ai choisi le centre parce que j'ai considéré, dans son temps, que c'était beaucoup plus judicieux d'être au centre pour à la fois ménager ma sensibilité de gauche et surtout ne rien nier des bonnes initiatives qui sont à droite. Et pour, si on devait parler pour l'actualité, quelle audace pour Sarkozy de nous mettre mon ami Rachida Dati. Alors nous, comme on est des bons joueurs, nous disons bravo Sarkozy, tu as été dans ton début quelqu'un d'efficace. Nous suivons la suite.
Vous êtes en train d'exprimer quelque chose de très nouveau quand vous faites allusion à ce que pensent les jeunes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a quelques modèles, gauche-droite, qui sont peut-être en train d'exploser. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Parce que, au fond, vous résumez votre position en disant « Ben voilà, j'ai pris contact avec François Bayrou. » Vous savez pourtant qu'il y a une gauche, qu'il y a une droite. Ce sont des socles beaucoup plus solides.
C'est en fait... Le fruit de ma conviction par rapport au parcours que j'ai pu avoir tout au long d'une vingtaine d'années pour savoir quel était le parti qui était susceptible le plus d'accueillir les minorités visibles. Et à mes yeux, celui qui avait la volonté de devoir nous ouvrir ses portes, c'était beaucoup plus François Bayrou que le Parti Socialiste ou l'UMP. C'est dans cette logique, d'autant plus que le socle de François Bayrou nous convenait parfaitement bien, à savoir un chef de famille, un homme qui a des valeurs, un homme qui a des sources, qui tient, un homme qui a su reconnaître qu'il s'était trompé dans sa trajectoire politique et il a pu se mettre son propre parti en opposition. Il a été même assez extrémiste à l'époque, ça c'était quand il s'est adjoint au Parti Socialiste pour faire... pour voter contre les motions de censure contre la droite. Je veux dire que ce genre d'individu me ressemble parfaitement. C'est-à-dire que j'ai pu en lui retrouver à la fois mes carences et mes audaces.
Slimane Azoug, vous découvrez donc l'Algérie après coup, si j'ose dire, puisque vous ne la connaissiez pas avant, ne connaissiez pas la langue, etc. On va un peu parler de l'Algérie, parce que nous étions nous-mêmes avec Lucien Bertolina à Alger lors des événements, sur les attentats qui ont eu lieu. On a eu le sentiment que la population algérienne était tout de même atterrée de revoir à nouveau des attentats saccager le sol algérien. Je voudrais vous demander un petit peu quel a été votre sentiment lorsque vous découvrez l'Algérie.
Alors, au moment où je découvre l'Algérie, je suis effrayé de voir qu'il y ait des queues à chaque grand magasin et le dernier de la queue, on lui pose la question « Pourquoi il fait la queue ?» Il ne sait même pas. Nous sommes dans un pays de pénurie. Les soviétiques ont bousillé l'économie de ce pays en leur donnant un modèle avec des usines qui sont toutes rouillées. L'Algérie a payé chèrement son adhésion au bloc socialiste. Et les enfants de l'Algérie en sont les premières victimes. Et tous ces attentats n'y sont pas étrangers, c'est le fruit de la paralysie économique dont l'Algérie n'arrive pas à s'en sortir. Et quelque part, si vous voulez, tous ces appareils économiques en panne, étatisés, qui se sont succédés, moi j'étais effrayé. Et me voilà arrivé en cheval blanc pour dire aux Algériens... Il faut ouvrir l'économie, il faut... Et quelque part, le pouvoir algérien qui était essoufflé a bien accepté, en fait, avec le recul, ma venue, parce que quelque part, ce coup de pied dans la fourmilière, et en plus avec la langue française qui est la mienne, qui m'était autorisée, le fait que je sois né en français, il ne pouvait pas me reprocher d'empiéter sur la législation qui était interdite de parler en français. Alors j'ai fait une entorse à la République algérienne, mais je la dois à ma double culture. Et comme quoi, vous voyez, la communauté immigrée, quand elle est prise dans sa bonne situation, elle est efficace à la fois à son pays d'origine, qui est la France, mais elle est aussi à la fois efficace à l'Algérie. Et n'étant pas dans le débat de la guerre coloniale, nous étions des enfants neufs et vraiment... des enfants écoutés, je dois vous dire que j'ai pu vendre des milliers de tonnes de viande, j'ai pu exporter et rentrer des milliards en France, je suis devenu le premier exportateur de viande et de bétail Provence-Alpes-Côte d'Azur, et j'étais l'interface entre la France et ces pays-là pour les accords sanitaires. Je me suis auto-proclamé par le vide qu'il existait, par deux économies un peu complexées, il faut être honnête. J'ai joué l'acteur de rapprochement, et je peux vous dire que l'économie était là au rendez-vous pour que la France redevienne présente et l'Algérie reprenne des contacts agricoles avec nos éleveurs. J'ai joué ce rôle pendant plus de 10 ans.
Nous nous sommes rencontrés au World Trade Center de Marseille, et précisément en duplex, nous étions avec la Chambre de commerce d'Alger. Il regrettait la faiblesse des investissements français en Algérie. C'est quelques centaines de millions d'euros, alors que la France exporte pour près de 4 milliards d'euros chaque année vers l'Algérie. Alors ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est cette faiblesse des investissements ? Ça tenait aussi au régime algérien, ce type socialiste ? Est-ce que ce n'est pas une espèce de timidité de la France ?
Je pense qu'à l'origine, c'était une timidité parce que le régime socialiste que nous avons eu pendant plus de 15 ans dans notre pays ne voulait pas travailler avec l'Algérie. C'est Jacques Chirac qui a donné le souffle avec du retard, parce qu'entre-temps, les Américains ont pris les places pétrolières et ils ont occupé le vide français qui était une condition politique. Vous savez que le président Mitterrand n'a jamais fait de voyage officiel en Algérie, alors que l'Algérie était son quatrième client à la France, alors qu'un tiers de l'économie gazière française provient de l'Algérie. Malgré cette relation imbriquée, réelle, durable, le président français n'a jamais fait de geste politique en destination de l'Algérie. Et par rétention, l'Algérie a eu ce genre de comportement. En sortant du bloc socialiste soviétique, ils se sont amarrés au bloc américain. Heureusement, Dieu merci, que dans cette valse, il y a les 5 millions d'Algériens qui ont envoyé 2 à 3 milliards d'euros par an. Quand ce n'était pas en voiture, c'était en marchandises. Quand ce n'était pas en marchandises, c'était au marché parallèle de l'argent. Mais ce flux relationnel entre la France et l'Algérie a été animé, même au plus mauvais du temps, par la communauté immigrée. Mes parents ont construit à la montagne, les parents de millions d'immigrés ont construit des maisons qui n'habiteront jamais d'ailleurs, mais le rêve du retour était dans l'esprit de nos parents. Nous ne sommes plus dans cette trajectoire. Aujourd'hui, nous sommes dans la France, nous sommes pleinement dedans. Et je peux vous dire que quand nos enfants vont là-bas, ils sont bien contents, mais de rester 3 semaines. Après, ils sont bien contents de retourner chez eux. Si vous voulez, quelque part, économiquement, il y a eu tous ces soubresauts qui sont venus froisser la relation économique. Mais, comme vous le disiez si bien au World Trade Center, Tibaoui, que je connais bien en tant que ministre, je l'ai connu en tant que ministre, et qui est aujourd'hui patron du World Trade Center, nous avions été ensemble pendant plus de 10 ans sur le volet économique de l'Algérie. Bien sûr, il a raison, nous ne faisons pas assez d'investissements. Mais eux ne font pas aussi, malgré l'engagement qu'ils ont avec la communauté européenne, ils ne réforment pas leur loi économique. Il y a un fonds de loi qui est à réformer de telle sorte à ce qu'il y ait plus de transparence entre l'économie légale et l'économie informelle. Il y a un goulot d'étranglement significatif, d'où la frilosité des économies développées. Bon, les Américains, ils ont moins de problèmes parce qu'ils ont quadrillé côté pétrole, ils n'ont pas de soucis, ils font leur propre loi. Mais pour des petites PME, vous le savez que notre pays est constitué de 70% de PME de moins de 10 personnes, et le chef d'entreprise ne veut pas se lancer dans une galère. Je crois que l'Algérie, ces derniers temps, commence à réformer ces lois, et vous avez maintenant un investissement significatif des Français. Vous avez les chaînes hôtelières, vous avez Peugeot qui a pris une part de marché significative, vous avez des privatisations qui s'organisent, Et pour être égoïste, je vais parler de moi. Dans le mouvement patronal que j'anime, nous venons de faire créer une grosse société qui s'appelle les Pages Jaunes d'Algérie, où nous avons, où le français de Nice, que j'ai introduit en Algérie, a créé 85 emplois, plus 15 emplois expatriés de Nice. C'est une réalisation, il a pris une niche de marché d'information, les pages du Maghreb, et voilà quelqu'un qui est installé. Vous avez un autre qui a créé des restaurants que nous avons supervisés indirectement. Il y en a, et nous venons de créer une école de formation qui s'appelle IFTI Algérie, avec la métallurgie. Vous avez des réalisations qui se font maintenant. Il y a le rouleau compresseur qui se met en place. C'est vrai que nous devons l'absence aux politiques. C'est pas aux gens de l'économie, parce que si les politiques ne font pas des rapprochements, s'ils ne font pas des accords de non-double imposition fiscale, s'ils ne font pas ce qui leur revient en responsabilité, c'est pas à l'entrepreneur de le faire. En ce qui me concerne, dans mon milieu, c'est une niche de marché, l'agriculture, où il y a quelques professionnels. Nous sommes 5 exportateurs français. Il n'y avait pas d'autre alternative que de prendre le taureau par les cornes pour créer l'accord sanitaire, et je m'en suis chargé. Si je devais attendre les fonctionnaires de Bruxelles pour le faire, je serai toujours en train d'attendre sur le quai de Marseille pour envoyer de la viande. Les milliers de tonnes que j'ai fait, c'est fait au détriment d'un engagement politique. C'est moi qui ai pris la responsabilité et je suis très fier de pouvoir l'avoir fait, comme je l'ai pu faire en Arabie Saoudite. Au moment où nous avions Tchernobyl, les Saoudiens avaient fermé la porte de la France. J'ai, moi, pris l'engagement de charger des bateaux de bétail et, Dieu merci, tout s'est merveilleusement passé. Nous n'avions pas, alors que nous sommes la 4e puissance du monde, tout paradoxalement que ça puisse vous paraître, nous n'avions même pas les portiques pour analyser le bétail vivant pour le nombre de becquerels. Le pays sous-développé, l'Arabie Saoudite, avait les portiques sur le port. Et je ne vous dis pas, quand mon bateau arrivait sur le port de Jeddah et mon bétail français sortait, je me tenais le ventre à savoir si nous n'avions pas plus de 600 becquerels. Ironie de l'histoire, nous n'avons jamais eu de problème de becquerels. J'en ai vécu l'expérience sur le port de Jeddah. Voyez-vous, l'entrepreneur, c'est quand même quelqu'un qui prend des risques. Mais il ne peut pas éternellement le prendre tout seul. Il lui faut le politique.
On en revient à votre engagement. C'est votre engagement a été éclairé par votre expérience d'entrepreneur.
Exactement, exactement. C'est le socle réel, c'est mon engagement économique qui fait que l'engagement politique m'y amène. Mais je le pratique, mais maintenant je vais en faire un métier. La particularité que j'ai, Slimane Azoug, par rapport aux 15 autres compétiteurs, aux 16 autres compétiteurs, pardon, c'est que moi, je suis un homme de l'entreprise. Je sais que aujourd'hui, nous allons avoir Euroméditerranée qui est en train de pousser sur des budgets européens, indirectement sur notre argent. Il va y avoir plus de 10 000 emplois qui vont être créés. Si demain, je suis un député, vous comprenez que mon fonds de commerce, c'est la négociation. Je serai amené à favoriser ma circonscription de telle sorte à ce que ces enfants des quartiers nord puissent travailler à Euroméditerranée. Vous le savez qu'il y a aujourd'hui près de 150 milliards d'euros qui circulent entre le bassin méditerranéen et l'Europe. Ces 150 millions d'euros devraient géopolitiquement transiter par Euroméditerranée. Le flux d'activités de services devrait revenir à la circonscription. Malheureusement, je suis désolé de vous le dire, dans l'état actuel des choses, ils en sont exclus.
C'est-à-dire que ces capitaux ne sont absolument pas captés, vous n'en avez absolument pas le bénéfice dans les quartiers nord.
Tout à fait. Nous sommes complètement, réellement étrangers à ça. Nous allons, si dans le cas où je suis député de cette circonscription, rentrer dans le débat. Et là, bien évidemment, ce qui me différencie des autres, c'est que moi, je suis administrateur au Crédit Mutuel depuis 23 ans. Permettez-moi de vous dire que je peux en parler de la finance. J'y suis dedans. Ce titre-là me permettra justement de m'y intéresser et forcément de ramener, de rendre attractif, de réoxygéner ces quartiers, de profiter des institutions nationales pour reconstruire tous ces immeubles pourris, on dirait Tchernobyl qui est passé. Je ne peux pas comprendre que ce pays exceptionnel peut être livré à cet abandon sous prétexte qu'on devrait le sanctionner parce que depuis 1936, nous sommes dans un fief communiste. La droite dure a décidé de nous donner une leçon.
depuis 36, avouez que ça fait quand même une leçon qui a duré. Il est grand temps que nous remettions justement de l'oxygène dans ces quartiers.
Vous avez donc là un gros travail, d'une part. Je vais revenir sur un point très rapidement, sur, au fond, ces rapports entre la France et l'Algérie. Il faudrait peut-être les remettre à plat, c'est un peu ça que vous voulez dire. C'est-à-dire que cette mémoire que nous avons entre, ces rapports de mémoire entre la France et l'Algérie, souvent ne correspondent pas tout à fait, en tous les cas, dans la bouche des responsables politiques. Je fais allusion là à votre réaction, qui a été la vôtre, à l'issue d'un discours tenu par M. Bouteflika. Vous pensez donc la plupart de... la façon dont on voit, dont on comprend les relations avec l'Algérie, sont aujourd'hui à remettre complètement à plat, à remettre en question. Est-ce que c'est votre sentiment ?
Alors, si vous faites allusion dans votre discours sur la réaction de Bouteflika, vous avez vu aisément ma position. J'étais contre son comportement.
Nous rappelons qu'il parlait de génocide culturel, oui.
Voilà, j'étais contre sa position et je le reconfirme aujourd'hui. La France et l'Algérie, pour des enfants que je suis, nous avons besoin d'autre chose qu'encore un autre combat. Aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que nous sommes gérés par des hommes politiques qui, des deux côtés de la Méditerranée, attendent que disparaissent des personnes qui sont encore vivantes pour faire le passé. Et nous faisons confiance aux historiens pour lisser cette situation de telle sorte à ce qu'on lui donne sa réalité. Et pas profiter du débat passionnel qui pourrait intéresser certaines gens pour encore plus nous éloigner. Moi, je suis de la religion qui consiste à dire profitons de notre impact économique qui est sérieux, qui est réel, à la fois pour les échanges gaziers, pour les échanges de la production française qui intéresse particulièrement la main-d'œuvre algérienne qui souhaite avoir des pièces détachées, qui souhaite avoir des petits produits pour fabriquer, pour recréer le tissu artisanal, pour redonner de la qualité aux produits qu'ils fabriquent, contrairement aux produits qu'ils importent de Chine, qui sont devenus des gadgets. Je ne veux pas et je serai jamais partisan de l'Algérie gadget. Je ne veux pas que les Algériens deviennent des tubes digestifs. Je veux que les Algériens deviennent des producteurs de richesses pour qu'ils s'enrichissent dans leur pays et ils nous enrichiront en restant là-bas, en faisant leur production et nous en leur faisant du transfert de savoir-faire. Nous avons des ingénieurs dans la France qui, à 55 ans, sont envoyés dans le bas-côté. Pourquoi nous pourrions pas nous permettre de les ramener là-bas pour reconstruire ce pays? Il a tout pour réussir. Il a un littoral de 1200 kilomètres. Il a une capacité de langue avec la France qui est tellement parfaite que certains abrutis politiques de chez nous essaient de brouiller les ondes. Je ne serai pas de cela.
Steven Azoug, je vous remercie.
Merci beaucoup.
La traversée. La traversée est une émission de Lucien Bertolina et Gilbert Assina sur les relations entre la France et l'Algérie depuis 1954. Prochaine émission, le dimanche 17 juin à 20h sur les 3-8 de la Grenouille. Bonsoir.